Vivre FM
Podcast.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Et ensemble, nous allons construire la vie des associations aujourd'hui, consacrée au CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini nous ont rejoints. Messieurs, je vous salue.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, au programme des nouveautés et encore des nouveautés, c'est bien ça?
Ben, beaucoup de nouveautés, effectivement. On va vous parler du salon du CISON. Donc, c'est un salon sur les aides techniques qui se tient chaque année à San Diego, en Californie. C'était la 30e édition, d'ailleurs, de ce salon. Donc, ouais. C'était en plus une édition un peu particulière, anniversaire. Ouais. On a repensé au début de ce salon. Il y a eu un certain nombre de célébrations, de commémorations qui étaient très intéressantes.
Alors, si je vous ai bien compris, ce salon semble avoir, enfin, cette 30e édition semble avoir été fêté en fanfare de par le nombre de nouveautés qui y ont été présentées.
Alors, oui, il y a eu pas mal de nouveautés, mais je dirais comme chaque année, peut-être pas plus de nouveautés que l'année dernière, pas moins non plus. Non, surtout, ça a été un salon qui a rassemblé énormément de monde, voilà, qui converge comme d'habitude vers ce salon chaque année pour parler de handicap en général, hein, puisque c'est un salon qui parle d'aide technique, mais pour tous les types de handicaps confondus. Évidemment, en ce qui nous concerne au CERTAM, puisque nous sommes un service de l'association Valentin Huy, on s'attache plus, bien évidemment, aux aides techniques liées au handicap visuel, donc que ça soit la basse vision ou la non-voyance. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui, comme d'habitude.
Et là, vous n'avez pas été déçu, il y avait des nouveautés au programme.
Il y avait pas mal de choses, des nouveautés dans les matériels braille, des nouveautés dans les matériels type lecteur audio, des nouveautés également pour le domaine de la basse vision, en ce qui concerne les loupes, les téléagrandisseurs. Il faut aussi signaler peut-être en préambule que c'est un salon où il y a énormément de conférences en marge de ce salon d'exposition. Quand je dis énormément, c'est, je dirais que chaque heure, il y avait 8 conférences simultanément. Et ça pendant 3 jours sur, en gros, un créneau qui va de 8h du matin jusqu'à 17h le soir.
Ah oui, belle cadence,
donc faites le calcul, vous verrez que c'était énorme. C'est un salon qui parle aussi beaucoup d'éducation aux États-Unis, donc c'est aussi l'occasion pour des universités, des gens qui travaillent dans les écoles, qui aident à l'intégration, de parler aussi de comment les États-Unis s'organisent pour intégrer les élèves, les étudiants déficients visuels, par exemple, et tout type de personnes handicapées de façon générale. Et donc, effectivement, ça a été aussi pour nous l'occasion d'assister à certaines conférences, ce qu'on mentionnera sans doute pas ce matin, parce que le temps nous est compté, donc il faut aussi...
Eh oui, vous avez l'air de le regretter, mais rassurez-vous.
Non, pas du tout, mais c'est qu'on aurait énormément de choses à dire, mais effectivement, aujourd'hui, on va vraiment vous parler que des nouveautés matérielles et logicielles qu'on a vues. C'est pour ça que je tenais à le préciser en préambule, parce qu'encore une fois, on pourrait y consacrer vraiment beaucoup de temps, mais on va essayer d'aller à l'essentiel sur ce sujet-là.
Alors justement, on plonge directement du côté de San Diego, du côté du CISON, donc 30e édition.
Eh bien, plongeons dans le Pacifique et allons voir les nouveautés qui étaient présentes sur ce salon. Je vous propose d'abord, puisque j'ai la parole, de vous parler des nouveautés braille. Hein, donc, de nouveaux afficheurs braille et de nouveaux bloc-notes braille. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a notamment un nouveau matériel de chez HIMS, le constructeur coréen, qui propose une petite plage braille de 14 cellules avec un clavier intégré pour pouvoir piloter un iPhone ou un téléphone sous Android, par exemple. Donc le Smart Beetle, c'est une gamme qu'on trouvait déjà chez des concurrents, notamment chez l'américain Freedom Scientific, mais donc là, le coréen HIMS propose maintenant ce modèle qui, par ses caractéristiques, ressemble beaucoup donc à son concurrent américain. Je dirais que la grosse différence entre les deux modèles, c'est que le modèle américain, donc qui est déjà sur le marché depuis quelques années, est bleu et celui-ci est rouge.
Oui, évidemment que pour les aveugles, j'allais dire, ça leur fait une belle jambe, mais à part ça, rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire.
Ça traduit bien, en tout cas, l'idée que effectivement ce matériel, répond à un besoin. On sait que c'est un matériel qui a beaucoup plu, ce petit boîtier 14 cellules qui permet de piloter des téléphones mobiles. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a d'autres constructeurs qui s'intéressent à ce marché des petites plages braille connectées. Et on va, à mon avis, en voir de plus en plus.
Alors, vous parlez de ça facilement, mais il se peut que du côté des auditeurs de Vivre FM, il y en a qui ne connaissaient même pas jusqu'alors l'existence de ce type d'appareil. Faut compter quel prix, justement, pour...
Alors en France, puisque je vais parler des prix qu'on connaît en oui. France, vous savez que parfois il y a une
parité. Il y a un vrai décalage.
Il y a une parité dollar-euro qui est pas toujours facile à suivre. Donc j'ai parlé des prix qu'on connaît en France sur ce genre de produit. On est selon les promotions, etc., entre 1000 et 1400 euros pour ce type d'afficheur braille 14 cellules avec clavier intégré qui permet donc de piloter des téléphones mobiles ou d'autres types d'appareils comme des iPads, par
d'accord.
exemple.
D'accord. La nouveauté justement dans ce type d'appareil, par exemple, vous le disiez, cet appareil on le connaissait déjà, fabriqué par d'autres, c'est pas dans le prix, je veux dire, pour l'instant ça décolle pas du côté des prix, hein.
Pour l'instant, ce matériel, à ma connaissance, n'est pas encore proposé par le distributeur français, ce qui ne saurait tarder à mon avis. Mais y a peut-être pas de... qu'effectivement, ouais. si, c'est possible que du coup, vous savez ce que c'est quand vous avez un marché où il n'y a qu'un seul produit présent.
Bah forcément, il a le monopole et il a un beau jeu de
tout cas,
pratiquer
ça,
les prix qu'il veut.
Il pratique le prix qu'il estime devoir pratiquer et ensuite, quand plusieurs produits arrivent sur ce même marché, il y a parfois effectivement une compétition qui s'instaure. Donc on va voir ce que ça va donner.
Donc
effectivement.
On peut rêver. Hein. On va continuer à rêver avec vous. Hein. Justement, on va rêver qu'on est à San Diego, au sein du salon le Season que vous avez parcouru pour nous. On va le faire après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, nous sommes à San Diego, en quelque sorte, hein, par la délégation du CERTAM, qui est venue nous rejoindre, le Centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et les malvoyants. On parle encore braille, pour faire une dernière mise au point.
Oui, rapidement, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à aborder. On a vu un autre type de produit qui, pour le coup, n'existait pas jusqu'à présent. C'est une plage braille 40 caractères, qui s'appelle l'Active Star, qui est fabriquée par l'allemand Handitech. Et alors, la partie particularité de cette plage qui fait également bloc-notes, c'est qu'elle a comme une espèce de tiroir dans lequel on peut glisser un téléphone mobile, ce qui fait que ça protège le téléphone et dans le même temps on peut s'en servir comme bloc-notes avec donc du coup le téléphone à l'intérieur donc de cette plage braille 40 caractères.
Belle idée.
Oui, c'est en tout cas quelque chose d'innovant, donc ça mérite d'être salué. Ensuite, on pourrait parler de différentes déclinaisons de modèles japonais notamment qui sont sortis en 24 cellules, en 40 cellules avec une synthèse vocale anglaise, etc. Ça nous amènerait un peu loin. Oui,
on va pas s'enfermer dans ces cellules parce qu'on a encore plein de choses à dire.
Absolument.
Qui concernent ce Season que vous avez parcouru de long en large. Ça a duré combien de temps?
Ça a duré
3 jours.
Alors le salon d'exposition c'est que 3 jours, mais il y a aussi donc les conférences pendant ce même salon, et il y a aussi des pré-conférences. Donc en réalité le Season ça dure 5 jours.
D'accord, mais vraiment ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, ce sont les 3 jours d'exposition.
Tout à fait. Et ce que je voulais dire à nos éditeurs, c'est les sujets que nous n'aurons pas le temps d'aborder ce matin seront développés dans un dossier qu'on fera paraître sur notre site web.
D'accord.
Que je me permets de rappeler du coup, www.certam.com, et il y aura un dossier thématique consacré au Season qui, je pense, devrait paraître courant avril, si dernier délai début mai, quoi.
Je croyais que vous alliez rapter la fin de l'émission jusqu'à midi parce que vous vous y sentiez prêt, il me semble. On n'en est pas là, hein.
Non, tout à fait. Alors un autre sujet dont on voulait vous parler ce matin, ce sont les lecteurs audio, puisque là aussi on sait que beaucoup de nos auditeurs sont friands de ce type de matériel.
Dans les appareils qu'on le vend en poupe, hein.
Voilà, rappelons en quelques mots de quoi il s'agit. Il s'agit de lecteurs qui vont nous permettre, par exemple, de lire des livres audio, MP3 ou au format DAISY. Et j'aimerais, du coup, attirer l'attention de nos auditeurs sur 2 produits qu'on a découverts. Le premier est un produit, là aussi construit d'ailleurs par le même constructeur coréen mentionné tout à l'heure, qui s'appelle HIMS, qui est le Blaze E.T., comme l'extraterrestre.
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un lecteur DAISY, avec une caméra embarquée qui va permettre de photographier également des documents en se mettant à 30 cm, 40 cm du document, et qui va reconnaître ce document et restituer vocalement ce document. Donc,
c'est une petite machine à lire.
Beaucoup de gens le décrivent comme tel. Le constructeur le décrivait pas forcément comme tel, mais effectivement, le distributeur français, par exemple, de ce produit, en tout cas du produit de base qui s'appelle le Blaze E.Z. avec un Z, le décrit effectivement parfois comme tel, comme une petite machine à lire portable, ce qui serait un peu l'équivalent de ce qu'on a déjà pu croiser ici ou là, notamment avec des applications sur téléphone mobile.
Oui.
Mais là, évidemment, l'usage en est simplifié puisque vous avez une machine vraiment dédiée au public déficient visuel avec des fonctions que vous allez appeler en appuyant sur certains boutons. Là, ce qu'on a vu, c'est la version évoluée donc de ce Blaze E.Z. qui s'appelle donc le Blaze E.T. partie et qui possède en plus donc un pavé numérique qui va nous permettre d'activer des fonctions différemment, d'avoir une calculatrice intégrée, d'avoir, pour ce qu'on en a vu, un dictionnaire. Alors évidemment, on était aux États-Unis, donc oui, c'est un dictionnaire en anglais. Mais en tout cas, voilà, un certain nombre de fonctionnalités qui devraient, je pense, apparaître sans doute dans le courant de l'année sur le marché français.
Oui, c'est ça. Sur le marché français, ça ne mettra pas bien longtemps finalement à nous arriver.
Ça met toujours un peu plus de temps parce qu'il y a un travail de traduction.
Forcément.
Et notamment, vous voyez, quand on parle d'un dictionnaire, ça veut dire qu'il faut trouver l'équivalent en français pour intégrer ce dictionnaire. Mais je pense qu'en tout cas, d'ici la fin de cette année, on devrait voir cet appareil en français sur le marché.
Donc, on rappelle le nom de cet appareil ?
C'est le Blaze ET comme extraterrestre.
ET, quoi. Voilà, Blaze ET. Très bien.
L'autre produit sur lequel on voulait attirer l'attention de nos auditeurs, c'est un produit qui, normalement, est destiné au marché des pays en voie de développement. Ça s'appelle le Megavoice. C'est un tout petit lecteur MP3. Aux États-Unis, il était vendu l'équivalent de $30. C'est un produit très simple, contrairement par exemple au produit que j'ai évoqué juste avant où il y a beaucoup de fonctions intégrées. Là, la seule chose que vous puissiez faire, c'est lire du fichier, tout simplement. Faire stop, play, pause, arrêt, avance, enfin vraiment un truc très simple, très dédié. Par contre, voilà, donc un coût extrêmement faible puisqu'on était sur $30. Et ils annoncent vouloir mettre sur le marché courant juillet un produit qui fasse la même chose, mais avec en plus la possibilité d'enregistrer pour $50.
D'accord. Alors, lire des fichiers, ça veut dire que des fichiers qui seraient sur carte SD, enfin qu'on pourrait télécharger via ce fichier,
voilà,
via cet appareil,
pardon. Voilà, stocker directement dans l'appareil en le connectant sur un ordinateur, tout
d'accord,
simplement. Et effectivement, donc à partir du mois de juillet, dans le nouveau produit, la possibilité d'enregistrer des mémos ou voilà, faire des petits enregistrements en toute autonomie.
Alors, vous dites que cet appareil est dédié en premier lieu aux pays en voie de développement, et c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le trouver, par exemple, en France, ou au contraire, ça pourrait être utile pour des personnes qui ne sont pas très aguerries à la technologie et qui n'ont besoin que de choses très simples, très basiques.
Bah, aujourd'hui, le constructeur brésilien de ce produit, qui le fait fabriquer en Chine, le destine prioritairement. Aux ONG qui travaillent dans les pays en voie de développement. Je sais notamment que c'est un produit qui est commercialisé en Afrique du Sud, par exemple. Maintenant, effectivement, quand on est allé le voir, il disait qu'il était à la recherche de débouchés, notamment sur le marché européen.
Donc, à suivre.
Donc c'est possible qu'on le rencontre ici.
Fernando Pinto da Silva représente le CERTAM. Il n'est pas seul. Jean-Pierre Carpanini l'accompagne. On va les retrouver tous deux après une pause musicale sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva représentent eux deux le CERTAM aujourd'hui sur Vivre FM, centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Et ils ont vu plein de nouveautés à San Diego lors du CISON qui s'est déroulé dernièrement. Et évidemment, ils nous rendent compte de ces nouveautés. Fernando, oui, vous êtes toujours d'accord?
Oui, mais je suis toujours d'accord. J'attendais que vous finissiez votre transition. Je me sentais bien parti, Benjamin. Donc, je voulais absolument pas vous interrompre. Je vais vous parler d'autres bricoles qu'on aborde parfois un peu moins à ce micro. Notamment parce qu'on les croise pas toujours. On a eu l'occasion de tester les lunettes Orcam. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des lunettes sur lesquelles on a fixé une caméra et qui vont permettre en réalité de pouvoir scanner un document à distance quand on regarde ce document, ou de pouvoir faire de la reconnaissance faciale, par exemple.
Reconnaissance faciale, c'est-à-dire?
Eh bien, on va apprendre au système, par exemple, quel est le visage de Benjamin Moreau.
Oui.
Donc, on va le photographier,
apprendre
au système, voilà. Et donc, quand on va passer devant Benjamin Moreau avec ses lunettes, si on le demande, ça va nous dire, tiens, c'est Benjamin Moreau. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Donc, il y a des choses là-dessus. C'est un produit qu'on avait déjà repéré au CERTAM il y a 2 ans, en tout cas, quand ils avaient commencé à en parler.
Ça serait bien pour les croupiers, ça. Les physionomistes.
Effectivement. Oui. Pour les croupiers aveugles, bien sûr.
Oui.
Et donc du coup,
les comiques croupiers, oui,
bien sûr, Benjamin. Et donc du coup, on se disait que le produit avait un intérêt, mais on n'avait pas encore réussi à le tester parce que c'était difficile de s'en procurer. Semble être encore le cas. Mais là, on a pu le tester. Bon, c'est sûr qu'un test comme ça dans un salon, c'est pas toujours probant à 100%. Mais là, ça fonctionnait. En tout cas, sur le texte qu'on nous a proposé de scanner à distance et sur les reconnaissances faciales qui étaient rentrées dans le système, ça fonctionnait. Après, reste à voir quel impact ça pourrait avoir en termes de distribution. C'est un produit qui est assez cher, qui est à 2 300 € quand même.
Et ça, c'est pour nous en mettre plein la vue, hein, effectivement.
Voilà, on peut imaginer un certain nombre d'applications, de la même façon qu'on a souvent entendu parler des Google Glasses de chez Google.
Il paraît que c'est un peu tombé à l'eau, ça. Je sais pas.
Alors, c'est vrai que on pensait notamment voir pas mal d'applications autour de ça au salon, notamment parce qu'on avait vu des choses à Madrid en novembre dernier. Et là, pas du tout. On a vu vraiment aucun applicatif sur le sujet. Donc, on était effectivement assez surpris. Je vois que vous êtes tout à fait à la page, Benjamin. Impressionné. Impressionné.
Grâce à vous, je fais des progrès.
Merci beaucoup.
Cela dit, je ne pouvais que faire des progrès. Alors, autre chose, autres appareils.
On a vu GPS. On a vu un GPS polonais. Alors là, c'est pareil, dans un salon, vous imaginez bien qu'on peut pas tester le GPS.
On imagine.
Cela étant, effectivement, c'est une nouveauté à signaler. Ça serait un nouveau GPS complètement dédié, avec un pavé complètement dédié.
Mais vous dites complètement dédié, ça fait un petit moment que les GPS pour les aveugles sont sur les marchés.
Alors c'est vrai, et dans le même temps, puisque vous êtes maintenant totalement à la page, Benjamin, vous aurez constaté comme nous qu'il y avait relativement peu d'évolution matérielle depuis ces 2-3 dernières années dans le domaine du GPS adapté. On restait sur des modèles qui sont sortis en gros en 2011-2012. Et donc là, si on signale ce GPS, c'est parce que c'est une nouveauté matérielle dans ce domaine-là. Puisqu'encore une fois, c'était pas fréquent de voir un nouveau produit totalement dédié GPS qui sortait. Il promet monts et merveilles, comme souvent les produits quand ils sortent, avec notamment une nouvelle qualité de signal, de réception de signal GPS, en disant qu'ils ont intégré la meilleure antenne de réception possible et imaginable.
Il n'y a pas de raison de pas les croire.
Absolument. Et ils nous ont promis d'organiser des démonstrations in situ à Francfort lors d'un salon qui aura lieu du 20 au 22 mai, avec donc du coup tout un tas de démonstrations dans et autour de ce salon qui lui-même est organisé dans une zone aéroportuaire. Donc je vous avouerai que je suis très intrigué.
Effectivement.
Et je suis très très impatient de vivre cette expérience, de pouvoir tester in situ ce GPS.
Ce qui est peut-être nouveau aussi, c'est que le fabricant est polonais.
Absolument. Alors c'est un acteur qu'on connaissait déjà, qui existe sur le marché, qui fait beaucoup d'autres choses. Là notamment sur son stand, il exposait également des jeux de dames, des jeux du Reversi par exemple en bois, adapté aux déficients visuels. Il fait un certain nombre d'autres produits, mais effectivement, en tout cas, dans le domaine du GPS, on ne l'avait pas vu, nous, proposer un produit précédemment. Toujours pour être complet sur le domaine du GPS, lors du salon CISEN, il y a eu une annonce, mais le produit n'était pas encore disponible, d'une nouvelle version matérielle du Tracker Breeze, qui lui aussi est un GPS adapté du canadien Humanware, et qui devrait arriver au printemps, et qui devrait, là aussi, être présent lors du salon Side City à Francfort du 20 au 22 mai prochain.
Ça, c'est un acteur connu sur le marché, hein.
Absolument, c'est un acteur connu, reconnu.
On connaît bien, oui.
Voilà, d'autant plus que Humanware, comme vous le savez, est un fabricant d'outils basse vision, dont nous parlera peut-être Jean-Pierre tout à l'heure, et puis de Braille, et puis de lecteur Daisy. Donc, c'est un acteur qui est même assez important sur le marché des aides techniques de façon générale.
On a été, sinon exhaustif, du moins à peu près complet en ce qui concerne ces nouveautés, en tous les cas celles dont vous souhaitiez parler sur l'antenne de Vivre FM, vous, Fernando, avant de passer la parole à Jean-Pierre.
Mais écoutez, en tout cas, aussi complet qu'on pouvait l'être. Et encore une fois, je renverrai les auditeurs au dossier quand il sera publié sur notre site internet.
Très bien. En attendant, une pause musicale sur Vivre FM et Jean-Pierre Carpanini, qui représente toujours le CERTAM, il y a encore plein de choses à dire concernant ces nouveautés vues lors du CISEN qui s'est déroulé dernièrement à Saint-Denis.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Le CERTAM est avec nous sur Vivre FM aujourd'hui, le CERTAM, Centre d'évaluation de recherche des technologies pour les aveugles et les malvoyants. Le CERTAM qui revient d'un très beau salon, le CISEN, qui s'est déroulé à San Diego dernièrement. Ils sont venus à deux pour nous en parler. Fernando Pinto da Silva a eu son temps de parole. Place à Jean-Pierre Carpanini. Jean-Pierre.
Oui, alors je vais parler plutôt de produits basse vision. Donc on a vu pas mal de choses, pas mal de nouveautés, de tendances également en produits basse vision, donc téléagrandisseurs ou loupes électroniques portables. La première chose, c'est des produits qui ont tendance à se retrouver d'un fabricant à l'autre. Et je prendrai un exemple, ce sont les téléagrandisseurs transportables. Donc c'est quoi un téléagrandisseur transportable ? Donc un téléagrandisseur, on l'imagine bien, un écran, une caméra positionnée sous l'écran et une tablette de lecture. Donc c'est un système fixe, un système qu'on utilise, qu'on ne transporte pas en général. Et depuis quelques années, on voit ce type de produit avec des écrans de dimension plus réduite, avec une tablette de lecture qui est soit mobile, soit fixe, mais souvent fixe pour prendre moins de place. Et ces systèmes sont pliables, donc on peut les plier, les ranger généralement dans une sacoche et les transporter relativement facilement. La plupart du temps, ces produits sont également autonomes, donc ils disposent d'une batterie et on va pouvoir les utiliser assez facilement sans nécessiter une prise de courant.
Alors là, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, on disait que évidemment plus il y a de fabricants, plus les prix peuvent être compétitifs. Ça veut dire que dans ces produits basse vision, justement, il y a une émulation qui se fait. Là, on le sent, ça décolle un peu de ce côté-là, du côté prix ou pas vraiment?
Il y a une émulation au niveau de...
Alors, de la fabrication, j'imagine, de la conception des produits.
Ouais. Voilà. Au niveau des prix, pas vraiment.
Pas vraiment
on a,
encore.
On a toujours... on a une augmentation des fonctionnalités, de la qualité. Donc, avec des systèmes optiques qui sont pour l'essentiel en haute définition, voire en très haute définition. Mais on peut pas dire qu'il y ait une baisse des prix.
Significative.
On n'a pas de baisse de prix significative.
D'accord. Donc,
pour citer quelques exemples de ces produits, chez Baum, on a un VisioBook S. Donc, VisioBook, c'est un système qui existe depuis, c'est un système de téléagrandisseur qui existe depuis quelques années, mais le VisioBook S est assez récent. Donc, c'est un appareil avec un écran de 12 pouces et demi. On est uniquement sur un produit vision de près, donc c'est uniquement pour lire les documents qu'on va poser sur la tablette. Mm-hmm. On a des fonctions très très simples, uniquement deux touches et puis une molette. Donc on va pouvoir mettre en marche, régler le zoom et puis modifier les couleurs d'affichage pour augmenter le niveau de contraste. Et on a une connectique vers un écran externe en HDMI.
C'est simple, c'est basique et ça fonctionne bien.
C'est simple, c'est basique, ça fait 3,5 kg, 3,6 kg. Donc une fois rangé dans sa sacoche, c'est assez facilement transportable. Mmh. Voilà, donc on a un produit à peu près identique chez d'autres, qu'on retrouve chez d'autres constructeurs, chez Freedom Scientific, c'est le Topaz PHD. Donc là aussi, système transportable, il existe en deux versions, version 12 pouces ou 15 pouces. Un petit peu plus de fonctionnalités, on a beaucoup plus de modes d'affichage, plus de réglages possibles au niveau des couleurs d'affichage, possibilité de geler une image, on a une fonction cache ou lignage-fenêtrage. Donc lignage-fenêtrage, c'est pour isoler une ligne de texte sur l'écran de façon à ne pas lors de la lecture, confondre, chevaucher de lignes.
D'accord.
Voilà, donc là aussi, on a la possibilité de l'utiliser sur batterie.
Quand vous dites geler une image, c'est-à-dire on peut l'enregistrer, préalablement la mettre de côté, comment ça se passe?
Voilà, on capture une image sauvegarder sur la mémoire de l'appareil. En option, on a la possibilité d'avoir une batterie qui offre à peu près 4 heures d'autonomie.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà. C'est assez pas mal de fonctionnalités. Mmh. Chez LVI, chez un troisième fabricant, donc LVI, on retrouve là aussi une gamme d'appareils qui s'appelle Magnilink Zip en 13 pouces, qui existe donc un petit peu plus lourd, hein, 4,2 kg. Toujours ce système pliable, hein, donc une fois replié, on a un appareil qui est facilement transportable. Eux, ils ont opté un petit peu pour des systèmes qui sont avec pas mal d'options possibles. Donc on a un appareil en 13 pouces ou en 17 pouces, mais en 17 pouces, c'est beaucoup moins transportable. En 13 pouces, on l'a en haute définition ou en très haute définition, en HD ou en Full HD. On a possibilité d'avoir soit une lecture, une tablette mobile pour la lecture ou une tablette fixe. On peut l'avoir avec batterie ou sans batterie. Donc c'est un appareil qui est relativement modulable et on peut l'avoir en plusieurs options possibles.
Donc voilà. Ça, c'est chez LVI.
C'est chez LVI.
D'accord.
Tout à fait. Si on doit parler d'autres tendances, on a des produits, on voit depuis quelques années des loupes électroniques portables avec des écrans 7 pouces. Donc y a, là aussi sur les loupes électroniques portables, on a eu la période, je dirais, avec des écrans de 3,5 pouces, 4,5 pouces, des écrans 5 pouces. Et là, on a des, depuis quelques années des appareils en 7 pouces. Et il y a Unanswered Vision, donc une société américaine qui a sorti un nouvel appareil, une nouvelle version de sa loupe électronique Amigo. Donc Amigo, c'est un nom qui est assez connu parce que ça fait des années en fait que le produit existe, mais là ils ont complètement revu leur copie, donc l'appareil est tout à fait nouveau. Il aurait pu porter un nom tout à fait différent, puisqu'on n'est plus du tout sur le même type d'appareil.
Donc c'est
Oui.
Une nouvelle loupe.
Une loupe électronique portable en 7 pouces, en haute définition, qui permet une vision de près et une vision de loin. On a possibilité de faire une mise au point manuelle ou automatique, possibilité de capturer des images et de les sauvegarder sur l'appareil.
Jean-Pierre, je sais que vous n'avez pas tout dit, mais non. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On va les passer ces minutes après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies pour les aveugles et les malvoyants. Nous sommes presque en direct de San Diego, où se déroulait il n'y a pas si longtemps le CISON, et d'où nous ont ramené Jean-Pierre et Fernando un certain nombre de nouveautés. Jean-Pierre.
Oui. On parlait produit basse vision. Donc après la partie téléagrandisseur transportable, ce qu'on a remarqué en nouveauté, c'est notamment, alors c'est pas réellement une nouveauté, mais il y a une nouvelle version, c'est le Clearview de chez Optelec, qui est un téléagrandisseur Clearview C, qui est un téléagrandisseur haute définition en 24 pouces. La particularité de ce téléagrandisseur, c'est que le pied n'est plus à l'arrière, mais sur le côté, ce qui permet d'avoir un déplacement de la tablette de lecture beaucoup plus facile lorsqu'on fait un défilement en fait du haut vers le bas. Mm-hmm. Donc là, c'est une première singularité du produit. La deuxième, c'est qu'il dispose, les commandes se font par l'intermédiaire d'un écran tactile. Donc les fonctions, on n'a plus de boutons en fait, hein, tout passe par un écran tactile. On a une version avec OCR et lecture par synthèse vocale. Donc là, c'est des choses qu'on retrouve aussi chez d'autres fabricants sur les téléagrandisseurs haut de gamme. Donc en gros, on place un document textuel, il est agrandi à l'écran, mais on peut également en faire une capture. La page est traitée et elle est lue ensuite par une synthèse vocale. Donc voilà pour le téléagrandisseur fixe de chez Optelec. Chez Eschenbach, on a vu également deux loupes électroniques portables assez intéressantes, notamment la Mobilux Digital HD. C'est une petite loupe électronique qui dispose là aussi d'une technologie haute définition et d'un écran tactile. Donc les commandes ne passent plus par des boutons, mais par en fait des pictogrammes qui sont affichés sur l'écran tactile.
Ça facilite grandement l'utilisation, le fait que justement ce soit un écran tactile plutôt que des boutons. Est-ce qu'on peut penser que des gens justement qui souffrent de malvision auraient peut-être intérêt à avoir toujours des boutons à disposition? Non, c'est pas forcément vrai.
Il y a des partisans en fait et des opposants. Effectivement, pour certains publics, les boutons physiques sont plus faciles. Je pense notamment aux personnes les moins technophiles, les personnes les plus âgées.
C'est ça, mais ça dépend pas forcément de la vision. Ça dépend, comme vous dites, on est technophile ou on l'est moins.
Technophile ou l'habitude effectivement d'utiliser ces technologies. Donc c'est très c'est pas lié au type de déficience visuelle, mais plus aux habitudes d'usage en fait de ce type de produit.
D'accord.
Donc sur cette loupe Mobilux Digital HD de Eschenbach, on a une poignée également, donc une utilisation qui est assez ergonomique, et assez facile. On a un taux d'agrandissement qui va de 4 fois 12 fois. Des modes couleurs, un shell d'image possible avec une capacité de sauvegarde assez importante et à peu près 3 heures d'autonomie en fonctionnement. Mm-hmm. Autre produit qui sera apparemment bientôt commercialisé, si ce n'est déjà commercialisé en France, chez le fabricant IMS, dont on a déjà,
parlé tout à l'heure,
c'est une gamme de caméras qui peut être connectée sur différents types de périphériques. Cette gamme de caméras s'appelle eBoot, donc il y a une version standard, il y a une version un petit peu plus évoluée, et celle sur laquelle on s'est davantage arrêté, c'est le modèle haut de gamme, donc eBoot Pro, qui est en fait une caméra motorisée qui peut être connectée soit sur un PC, soit sur un ordinateur Mac, ou éventuellement en Wi-Fi sur une tablette, que ce soit une tablette Android ou une tablette iOS.
D'accord.
Donc.
Alors, on parle de caméra, alors donc on parle de photos, enfin de films, de vidéos qu'on peut faire. On parle plus d'appareils de lecture, par exemple.
C'est des systèmes d'agrandissement, puisque sur.
Des systèmes d'agrandissement. D'accord.
Sur l'écran de la tablette ou de l'ordinateur, on va avoir une image agrandie de ce qui est visualisé par la caméra.
Et ça veut dire qu'on peut l'agrandir encore plus, parce que peut-être sur la tablette, il peut y avoir un outil qui agrandisse encore. Ça veut dire que ça peut se faire, ça encore?
C'est pas tellement. L'avantage de ce produit, c'est son côté connectable à différents produits, c'est surtout ça.
Eh bien, vous viendrez vous reconnecter vous bientôt sur l'antenne de Vivre FM, hein? D'accord, parce que ça y est, c'en est terminé, hein.
Ben voilà, on a encore plein d'autres choses. Rapide, mais il y aura tellement d'autres choses à dire, ouais, qu'on aura encore de quoi dire en avril, en mai, en juin, enfin comme d'habitude, quoi.
Ben vous revenez le mois prochain.
Avec grand plaisir.
D'accord. En attendant, si l'on veut tout savoir sur le CERTAM,
comme
si l'on veut disposer
vous
de vos fiches,
www.certam-ver-avh.com. Nous rappelons que nous sommes un service de l'association Valentin 86 au 5 rue du Roc 75 007 Paris, joignable par téléphone au 01 44 49 27 20.
On m'a dit que Jean-Pierre Carpanini imitait vachement bien Fernando Pinto da Silva, mais quand même, il est inimitable, notamment dans le débit. Merci à vous deux, en tous les cas.
Merci à vous,
infiniment d'avoir été des nôtres pour nous parler de ces nouveautés.
Et nos amitiés à Bertrand.
Ça sera fait, promis, je vous.